franceinter.fr.
Et à la une de la science aujourd'hui, les premiers échanges entre les hommes et les abeilles.
Ce bourdonnement veut dire quelque chose. Je ne connais qu'une seule raison pour que ça bourdonne. C'est qu'il y a des abeilles. Et s'il y a des abeilles, c'est pour faire du miel.
Avec une date à retenir, moins de 9000 avant notre ère, c'est maintenant la date qu'il faudra justement assimiler pour la première apparition des abeilles dans le quotidien des hommes. Martine Roger, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes co-auteur de ces travaux, vous êtes archéochimiste et directrice de recherche CNRS au CEPAM de l'université de Nice, Sophia Antipolis. Et puis par téléphone, nous sommes heureux d'être avec Jean Guilaine, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes archéologue et professeur au Collège de France. Martine Roger, le travail que vous venez de publier avec Mélanie Rofsalk de l'université de Bristol, donc, est assez colossal. 6400 morceaux de poterie, de céramique récoltés partout en Europe depuis 20 ans, à la recherche donc de ces traces de cire. Ce sont les seuls indices que vous aviez justement pour retrouver les abeilles dans la préhistoire ?
Alors quasiment, avant ces travaux, il n'y avait pas grand-chose. Nous avons quelques représentations en Égypte, évidemment, puisqu'on trouve tout en Égypte.
Oui,
donc les plus anciennes représentations de ruches domestiques datent de 2400 avant Jésus-Christ. Et... enfin, celles qui sont datées. Et il y a également des peintures rupestres au Levant espagnol, donc sur la côte est espagnole, qui ne sont pas datées, parce que pas datables, mais qui doivent remonter au néolithique sans plus de précision que cela. Et ensuite, il y avait quelques traces de pollen dans des récipients, mais pour des périodes plus récentes, dont l'association tendait à montrer qu'on était en présence de produits de la ruche. Mais c'est à peu près les seuls indices que l'on avait, puisque l'on avait peu également de restes d'abeilles dans le registre fossile.
Qu'est-ce que vous faites quand vous cherchez des traces de cire? Vous faites les fonds de casserole, en fait, c'est un peu ça?
Alors, on fait un petit peu les fonds de casserole et il faut bien voir qu'au départ, on ne cherchait pas les traces de cire puisqu'on n'avait aucune idée de ce qu'on allait trouver. Donc, on cherchait à savoir ce qui était conservé, en particulier tout ce qui est matière grasse et lipides, qui se conservent particulièrement bien. Et ont été retrouvées des matières grasses animales, des huiles dans certains cas, enfin, un certain nombre de substances. Et la cire d'abeille, qui a une signature chimique stable et très caractéristique, se retrouvait systématiquement dans un certain nombre de récipients et nous a donc amené à mettre nos travaux en commun, en fait, nos résultats en commun, Richard Evershed à Bristol et moi-même, nos deux équipes, pour avoir une vision globale, à la fois dans le temps et dans l'espace, de l'exploitation de ces produits, qui par ailleurs fournissaient bien sûr des données paléoécologiques aussi sur la distribution des abeilles.
Donc en datant les céramiques et les poteries, on en déduisait l'âge de ces cires?
C'est-à-dire qu'en fait, on travaille sur des séries de céramiques issues de sites bien datés, dont le contexte est bien connu, datés par ailleurs, par le carbone 14, enfin par un ensemble de méthodes, et à partir de là, on peut évidemment faire des cartes de distribution chronologiques et spatiales.
Jean Guilaine, par téléphone, est-ce que ces résultats vont nous aider à dater l'apparition de l'apiculture?
Ben, peut-être, mais on est sur un terrain encore très très mouvant. Ce qu'on observe, évidemment, c'est la présence de cire d'abeilles, mais cela ne nous donne pas le moment, en quelque sorte, où l'homme a domestiqué, je mets ce terme entre guillemets, bien entendu, l'animal. Je pense, comme d'ailleurs Martine Roger, qu'avec le néolithique, c'est-à-dire avec le moment où l'homme commence à modifier la nature, à intervenir sur les végétaux, sur les animaux, les abeilles ont directement intéressé. Et puis évidemment, depuis très longtemps, ils consommaient le miel des abeilles produit d'une manière non anthropique, disons.
Alors là, justement, ce qui est intéressant, Martine Roger, c'est que vous avez trouvé des traces de cire d'abeille partout en Europe. Hein. Donc ça veut dire que vraiment, les ruches étaient omniprésentes au néolithique?
Alors les ruches, ce qu'on ne sait pas, comme l'a dit Jean Guilaine, c'est à quel moment la domestication, entre guillemets, je mets aussi des guillemets, a eu lieu.
Ouais.
À partir de 2400, enfin les représentations espagnoles, du Levant espagnol dont je parlais, ça correspond à l'exploitation de ruches sauvages. 2400 avant Jésus-Christ en Égypte, ce sont des ruches domestiques. Et à partir de ce moment-là, on trouve plusieurs traces de ruches domestiques et de céramiques notamment qui ont servi de ruches. Avant cela, je ne sais pas si on arrivera à dater la domestication. Ce qui est sûr, c'est qu'ils ont exploité les produits de la ruche, y compris de ruches sauvages, dès le début du néolithique.
Est-ce qu'on peut par contre imaginer, Jean Guilaine, à quoi servaient ces produits de la ruche à ces époques ?
Alors, écoutez, je peux rajouter quelque chose à ce que vient de dire Martine Régère, c'est que l'homme a eu tôt besoin de cire, hein, parce qu'en particulier, à partir du moment où il a inventé la métallurgie, et on a des traces de métallurgie, disons en gros à partir de 4000 avant notre ère, il a effectué en quelque sorte des, il a fabriqué des instruments à partir de la cire perdue. Donc il a fallu modeler en quelque sorte des outils en cire qui ont été ensuite transformés évidemment en métal. Alors on a par exemple en Israël, vers 4000 avant notre ère, un très gros dépôt d'objets cérémoniels. Il y a des sceptres, des couronnes, des parures, des récipients qui ont été faits à la cire perdue. Et je pense que pour réaliser une telle métallurgie, de tels produits, on a dû avoir recours évidemment à de la cire, beaucoup de cire même. Et je pense donc que si nous n'avons pas une date précise des débuts de l'apiculture, au moins on peut penser que dès cette époque-là, on avait besoin de cire à un niveau qui était, je mets des guillemets encore une fois, industriel. Et que donc déjà autour de 4000 avant notre ère, l'apiculture existait.
Martine Régère, pour terminer, il y a une actualité qui résonne avec votre découverte, c'est l'insecticide Roundup à base de glyphosate qui va être réintroduit en Europe, en tout cas on le saura en juin. Est-ce que vous avez envie de réagir à cette actualité?
Disons que ça ne relève pas de mon domaine de compétence, puisque moi je me suis intéressée aux abeilles dans le passé, mais il est clair que je réagis en tant que citoyenne là, et pas forcément chercheur, mais que c'est assez décevant, et ça ne me paraît pas être une bonne nouvelle pour les abeilles. Cela fait néanmoins 9000 ans que nous cohabitons, et on ne peut qu'espérer que nous serons assez sages pour continuer l'aventure ensemble. Ouais,
et pour stopper l'effondrement des colonies qu'on observe partout dans le monde. Merci beaucoup Martine Régère, bravo pour ces travaux, publication cette semaine, et puis merci également pour votre éclairage Jean-Guilaine.
Merci.
À très bientôt, au revoir. Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, une exoplanète quasi jumelle de la Terre, découverte d'une taille et d'une masse proche de celle donc de notre planète, la petite nouvelle baptisée GJ1132b, retenez bien son nom, devrait également être une rocheuse, mais les ressemblances avec notre monde s'arrêtent là, puisqu'il y fait très chaud, 226 degrés Celsius estimés, des températures qui ne laissent aucun espoir à l'eau liquide, mais qui n'excluent pas la présence d'une atmosphère, une hypothèse qui sera bientôt vérifiée. Prédire la sortie d'un patient du coma sera bientôt possible. Des scientifiques en France ont comparé le cerveau de 27 patients plongés dans le coma à ceux d'individus sans troubles neurologiques à partir d'une IRM fonctionnelle. Ils ont constaté que la récupération des patients était intimement liée au degré de communication entre deux zones cérébrales. Les spécialistes ont précisé que les malades qui vont récupérer un état de conscience présentent des niveaux de connexion comparables à ceux observés chez les sujets sains. À l'opposé, une diminution de la communication entre les deux zones prédit une évolution défavorable vers un état végétatif. Une révolution donc à venir pour le monde médical et des dizaines de milliers de personnes en France concernées chaque année par le coma. Et puis pour finir, les cafards ont du mordant. Une étude anglaise révèle que des cafards américains, les Periplaneta americana, sont capables de mordre avec une puissance qui correspond à 50 fois leur poids. Une morsure proportionnellement 5 fois plus puissante que celle des humains. Cette découverte pourrait permettre aux chirurgiens, par exemple, d'utiliser des pinces ultra solides mimant les muscles et les articulations des cafards durant leurs opérations. Un pas prometteur pour la technologie de pointe.